Bienvenue au pays des mythes et des légendes. Le feuilleton d'Ulysse, résumé des épisodes de la semaine précédente. Furieux d'avoir été volé, Hélios a obtenu vengeance. Le foudre de Zeus s'est abattu sur le bateau d'Ulysse. Lui seul a survécu au naufrage. Il se retrouve sur un radeau, perdu en plein océan. Il est recueilli sur une île paradisiaque par la nymphe Calypso. D'abord séduit, il finit par se morfondre, nostalgique de son pays. Calypso lui propose alors l'immortalité et l'éternelle jeunesse s'il reste auprès d'elle pour toujours. Mais Ulysse refuse. Il préfère retrouver sa femme et son île. Hermès en personne est venu exiger de la part de Zeus que Calypso laisse Ulysse repartir. Ce soir-là, un navire s'éloigne du port d'Ithaque. Sur le pont du bateau se tient Télémaque, accompagné de Mentor, le colosse barbu, son protecteur. Du moins, c'est ce que le jeune homme croit. Il regarde la silhouette de sa mère restée sur le quai pour lui faire de grands signes d'adieu. Elle devient de plus en plus petite. Bientôt, elle n'est plus qu'un point à l'horizon. Télémaque est trop loin pour distinguer une autre silhouette qui s'est approchée de Pénélope. C'est pourtant celle de Mentor. Mon ami, je te suis tellement reconnaissante, murmure Pénélope. Quand tu as arraché mon fils du palais, je ne pensais pas que tu parviendrais à le soustraire à ses mauvaises influences. Il a complètement changé d'attitude vis-à-vis des prétendants. C'était inespéré. Tu l'as remis au travail dans les champs, tu as occupé ses mains pour remplir son esprit. Mais vois-tu, son départ me serre le cœur. Il ne cherche pas à retrouver son père, ni à entretenir son souvenir. Télémaque se moque de la mémoire. Il n'est parti que dans un seul but, obtenir la preuve de la mort d'Ulysse et pouvoir définitivement tourner la page et l'oublier à jamais. Sa voix se brise lorsqu'elle prononce ces derniers mots. Mentor en est ému. Il pose son bras sur les épaules de Pénélope avec tendresse. N'aie crainte. Un voyage comme celui-ci peut tout bouleverser. Peut-être se trouvera-t-il enfin. En tout cas, il est bien accompagné. Pénélope esquisse un sourire. Il pense être parti avec toi. Oui, j'ai laissé la déesse Athéna prendre ma place et mon apparence. C'était plus prudent pour ton fils. Elle saura le guider, l'entourer comme une mère. Mais ce que Mentor ne dit pas, c'est que même avec l'aide d'Athéna, la partie est loin d'être gagnée. Car il faut que Télémaque lui-même ait envie enfin de grandir, de prendre sa place dans la vie, ce qui n'est pas certain. Trois hommes, le visage dissimulé sous une capuche, observent eux aussi le départ du navire de Télémaque. « Nous devons nous débarrasser de lui, » murmure l'un. « Tu as raison, » répond l'autre. « Nous lui tendrons une embuscade dès son retour. Le fils d'Ulysse doit mourir comme son père. » Et le troisième. « Pénélope nous fait attendre depuis de trop nombreuses années maintenant. Elle va devoir se décider, choisir l'un de nous, vite !» Les trois prétendants tournent le dos au port et reprennent le chemin du palais. Pour Télémaque, tout est nouveau à bord. C'est la première fois qu'il prend la mer. Le roulis du bateau, le bruit du vent dans les voiles, les cris perçants des goélands. Tout le ravit et l'effraie en même temps. « Je suis un paysan, moi, un terrien, pas un marin, comme papa, » se dit le jeune homme. « Tu imagines ce que ton père a dû ressentir lorsqu'il est parti avec ses 12 bateaux pour faire la guerre ?» Télémaque sursaute. Il n'a pas entendu Athéna, qui a donc pris l'apparence de Mentor, s'approcher. « Tu devines mes pensées maintenant, Mentor ?» dit-il en éclatant de rire. La bonne humeur du jeune homme dissimule mal son émotion. Pour la première fois de sa vie, Télémaque ressent ce que son père a dû ressentir, 20 ans auparavant. Le voyage qu'il entreprend lui fait suivre pas à pas les traces d'Ulysse. Quelques semaines plus tard, après s'être initié à la navigation, à la vie en mer, soumise aux courants et aux vents du large, Télémaque s'apprête à entrer dans la ville de Sparte. Il la découvre prospère et arrogante. Cette riche cité le met d'emblée mal à l'aise. Athéna, mentor à ses côtés, lui dit « C'est ici que ton père a rencontré ta mère. Lorsque Ulysse y est entré pour la première fois, lui, le roi pauvre d'une île pauvre, il a détesté cette ville. Mais il en est reparti le plus heureux des hommes, en ayant obtenu l'amour de ta mère. » Surpris, Télémaque se dit qu'il n'a jamais questionné Pénélope sur son histoire et encore moins sur sa rencontre avec son père. Il se promet de le faire dès son retour. Il arrive enfin au palais de Ménélas. L'imposante bâtisse lui déplaît, mais il ne peut s'empêcher de la comparer au palais délabré de son père. Certains de ceux qui ont été victorieux sous les murailles de Troie en sont revenus encore plus riches, encore plus puissants. Quelle injustice que la disparition d'Ulysse. « Comme tu lui ressembles !» s'exclame soudain une voix. Le jeune homme vient d'être interrompu dans ses pensées par Ménélas en personne. Il s'avance sur les marches. Le roi de Sparte lui ouvre les bras. « Entre, entre, mon ami, le fils de mon meilleur ami, entre. Tu es ici chez toi. » La gorge de Télémaque se noue. Va-t-il trouver à Sparte ce qu'il cherche ? L'accueil du roi Ménélas est chaleureux. Pourtant, Télémaque ne se sent pas à l'aise. Un banquet en son honneur est immédiatement organisé. Au cours du repas, Hélène fait son apparition. Elle est d'une beauté toujours aussi éblouissante. Mais son regard ne se fixe nulle part. Et c'est à peine si elle semble remarquer la présence de Télémaque, pourtant placé à sa droite. Pour plaire à son invité, Ménélas a demandé à un aède de venir raconter les exploits des Grecs pendant la guerre de Troie. Le conteur fait le récit des batailles, glorifiant chaque acte de bravoure des combattants. Télémaque écoute, fasciné et horrifié à la fois. Des noms reviennent sans cesse. Achille, bien sûr. Agamemnon, Ménélas lui-même. Mais aussi une foule de noms qui lui sont inconnus et très régulièrement celui de son père. Dans la bouche de Laède, le sang coule, la guerre se pavane. Ulysse a fait preuve d'une ruse et d'une habileté exceptionnelles sous les remparts de Troie. Ulysse s'est infiltré dans les lignes adverses de nuit au péril de sa vie. Ulysse est un héros. Les plats se succèdent sur la table du banquet. Hélène y touche à peine. Elle est droite, pâle. Télémaque découvre ses 10 années de guerre avec stupéfaction. Il est bouleversé d'apprendre les exploits de son père. Mais plus le récit se prolonge, plus sa fierté d'entendre louer son père se double de gêne. Quelle cruauté de vanter le massacre des Troyens devant Hélène, pense-t-il. Ménélas ne prête aucunement attention à sa femme. Il rayonne d'orgueil. Au bout d'un moment, il dit « Tu entends, jeune homme, ton père était un brave parmi les braves. » Télémaque bondit. « Était ? Pourquoi était ? Tu sais quelque chose à propos de sa mort ?» Le sourire de Ménélas disparaît. « Tu ignores donc ce qui est arrivé à Ulysse ? » demande le roi de Sparte. Le visage tendu, Télémaque attend la suite en silence. Nous avons réussi à rentrer très vite chez nous, mais Ulysse, lui, n'a pas eu cette chance. Poséidon a poursuivi ton père de sa malédiction pendant des années, explique Ménélas. Il est mort, n'est-ce pas ? L'interrompt Télémaque. Ménélas répond précipitamment. Non, 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 rassure-toi. Puis il baisse les yeux. Nous avons eu de ces nouvelles, grâce aux dieux. Ulysse vit depuis quelques années sur l'île d'une nymphe appelée Calypso. Devenu livide, Télémaque s'est levé. Il jette un regard noir à Mentor. C'est bien ce que je pensais. Il a abandonné Pénélope pour une autre. Et moi ? Moi, il m'a oublié. Il y a alors un grand bruit qui fait sursauter tous les invités. Hélène vient de se dresser d'un bond. Sa chaise s'est renversée par terre. « J'en ai assez entendu ce soir. Ulysse, n'aimait pas faire couler le sang. Ulysse n'aimait pas se battre, crie-t-elle. Cette guerre n'est pas héroïque. Et elle s'est terminée en boucherie. Quant à Calypso, elle le retient prisonnier contre son gré. Lui aussi sait que l'amour peut être éternel. Suffoquée par les larmes, Hélène quitte précipitamment la salle du banquet. Télémaque jette un regard interrogatif à Mentor. D'un geste, celui-ci lui fait signe de suivre la reine de Sparte. Le jeune homme se précipite derrière elle. Il retrouve Hélène dans ses appartements. Elle est secouée de sanglots. Télémaque n'ose dire un mot. Il observe la tapisserie qu'elle est, elle aussi, en train de tisser. On y devine des scènes de guerre, des batailles, des chevaux, des soldats emmêlés, des morts, beaucoup de morts. Impressionné par la toile, Télémaque fait un pas en avant. Il découvre les murailles de Troie en flammes, des corps qui tombent du haut des remparts. Hélène s'aperçoit de sa présence et essuie ses pleurs. « J'aurais dû mourir. Pourquoi suis-je encore de ce monde ? Mon amour est mort, mes amis sont morts, des milliers de gens sont morts par ma faute. » Ému devant cette douleur, Télémaque met un genou à terre et lui embrasse la main. Votre tapisserie leur redonne vie à jamais. Hélène remercie Télémaque d'un sourire et elle l'emmène sur la terrasse dans le jardin. J'étais là avec ma bien-aimée cousine, ta mère, lorsque ton père est venu demander sa main. C'était ici, sous ces eucalyptus. Bouleversé, Télémaque regarde cette fontaine qui chante joyeusement, l'ombre odorante des grands arbres. Ainsi, c'est en ce lieu que cet amour est né. Cet amour englouti par les années. Comme si elle avait entendu ses pensées, Hélène reprend d'un ton passionné. « Oh, sache que, depuis, Ulysse n'a jamais cessé d'aimer Pénélope, ni de penser à elle. Sache que tu comptes à ses yeux plus que tout. Calypso le retient contre son gré. Sois patient, sois confiant. Il vous reviendra un jour. Mais il aura besoin de l'aide de son fils. » La plus belle femme du monde, dit-elle la vérité. Les faucons tournoient haut dans le ciel au-dessus de la caverne de Calypso. Ils nichent dans un bois de magnifiques peupliers noirs. Mais ce jour-là, un bruit sourd et continu les a écartés de leur nid. Ce bruit, c'est celui d'une hache qui s'abat sur des troncs. C'est Ulysse. Il coupe de grands arbres. Le soleil darde ses rayons. La tâche est dure. Mais Ulysse ne faiblit pas. Maintenant que Calypso, obligé d'obéir à Zeus, lui rend sa liberté, il ne veut plus perdre une minute. Il bûcheronne ainsi jusqu'à la tombée du jour. Puis il s'endort dans une clairière, la tête dans les étoiles. Il recommence le lendemain et les jours suivants. Et bientôt, il a à sa disposition de grands et beaux troncs d'arbres. Il en ôte les branches, puis rassemble les troncs côte à côte. Ils les ficellent ensemble. Ulysse admire son travail quand une voix légèrement moqueuse lui dit « Il est beau ton radeau. Félicitations. Il n'a pas besoin de se retourner pour savoir que Calypso est venu le rejoindre dans la clairière. Que va-t-elle encore inventer pour me retenir ?» se demande-t-il. Mais Calypso semble vouloir l'aider. « Tiens, je t'ai apporté de beaux habits pour te vêtir. » à boire, à manger pour que tu puisses rentrer chez toi sans difficulté. Ulysse redoute le piège. Je jure par le Styx que je ne ferai plus rien pour t'empêcher de partir, lui assure Calypso. Et d'ailleurs, je te conseille de ne pas traîner. Poséidon est parti en voyage, il ne te verra pas si tu pars maintenant. Alors Ulysse accepte la viande séchée, le blé que la nymphe lui offre. Il charge aussi l'eau et le vin sur son radeau. Il met les beaux habits qu'elle lui a apportés. Puis il traîne l'embarcation jusqu'au rivage. Lorsqu'il est prêt à partir, il veut dire adieu à Calypso, mais il ne la voit plus. La nymphe a regagné sa forêt. Il jette un dernier coup d'œil à cette île magnifique et il pousse de toutes ses forces le radeau à la mer. Une vague vient doucement le cueillir et l'emporte au loin. Ça y est, Ulysse reprend la route. Il repart comme il est arrivé. Seul sur un radeau. Les premiers jours de navigation sont paisibles. Une mer clémente permet à Ulysse d'avancer rapidement, de garder le cap. Il est si joyeux qu'il ne cesse d'interpréter à tue-tête des chants de son île, des chants venus de son enfance, des chants que sa mère lui avait appris et qu'elle tenait elle-même de sa mère. Mais Poséidon rentre déjà de voyage. Il entend soudain le chant du marin perdu. Le dieu de la mer fronce les sourcils. « Oh, ça par exemple, c'est encore ce maudit Ulysse, celui qui a rendu mon fils aveugle ?» La colère de Poséidon est immédiate. Il envoie une énorme vague frapper de plein fouet le radeau d'Ulysse. La vague renverse la frêle embarcation. Sans avoir le temps de réagir, le roi d'Ithaque se retrouve englouti par les flots. Il se débat pour remonter à la surface, mais le beau manteau que Calypso lui a offert se gorge d'eau et devient si lourd qu'il l'entraîne au fond de l'océan. Ulysse suffoque. Lui qui nage si bien ne parvient même pas à bouger les bras. En un geste désespéré, il réussit à se débarrasser de ses vêtements et peut ainsi refaire surface. Il était temps. Il manque d'air, ses poumons vont éclater. Il se jette à la poursuite de son radeau et, épuisé, s'agrippe au tronc d'arbre. Oh, cette fois, je ne m'en sortirai pas. Ah, quelle triste fin, nu, seul, perdu au milieu de l'océan, se dit-il. Quelques heures plus tard, alors que ses bras engourdis menacent de lâcher prise, le naufragé voit une mouette se poser tout près de lui. L'oiseau tient dans son bec un bout de tissu blanc. Ulysse tend la main. La mouette s'approche pour qu'il puisse saisir le tissu. Dès qu'il l'a attrapé, elle s'envole. « Merci, déesse !» crie Ulysse, qui pense avoir reçu l'aide d'Athéna, sa protectrice. Il ne se trompe pas, car la déesse, comme tous les dieux, peut être partout en même temps. À peine a-t-il attrapé le tissu qu'une vague plus forte que les autres brise en morceaux son pauvre radeau. Il ne lui reste plus qu'un seul tronc d'arbre. Il se met à nager, en s'aidant du morceau de tissu comme une voile improvisée. Ulysse nage. Il nage pendant des heures jusqu'à l'épuisement. Par moments, il se repose, accroché au rondin, en se laissant porter par la voile. Puis il reprend ses mouvements. Une voix résonne dans sa tête. « Respire, mon fils. Souffle dans l'eau, recommence, allonge ton geste. » Cette voix, c'est celle de Laërte, son père. C'est ainsi que tout petit, Ulysse a appris à nager, à lutter contre les vagues et les courants. Toujours accompagné par les conseils, les encouragements de son père, qui était un excellent nageur. « Vas-y, mon fils, ne crains rien, fais-toi confiance. La mer n'est pas ton ennemi, apprends à jouer avec elle. » Et grâce à Laërte, Ulysse est devenu l'un des meilleurs nageurs d'Ithaque. Il sait à quel moment se laisser porter, quand il faut accentuer son effort, comment placer son corps dans le sens de la vague. Il a rêvé de surpasser son père à la nage, et il y est parvenu, à la grande fierté de Laërte. S'il avait pu imaginer enfant que cet apprentissage lui servirait un jour, mais cela suffira-t-il vraiment à lui sauver la vie ?